C'est 23.
Un balado, c'est 23. Produit par le 98.5.
Ça tient la route. Le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut à tous. Autre émission qui débute avec mon collègue Alain Mécano. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Aujourd'hui, évidemment, notre bloc actualité, on va jaser de tout ça. Nos invités, on continue ce qu'on avait commencé la semaine dernière, notre présentation des différents constructeurs automobiles qui nous parlent de l'année qui vient. Cette semaine, on va parler avec Jean-François Taylor, qui est le responsable des relations publiques pour Hyundai Canada.
Ça va être intéressant.
Je sais déjà que la semaine prochaine, on va parler de Genesis, qui est la division de
le
luxe.
Grand frère,
oui,
c'est
le grand frère. On vous laissera, on vous en parlera un peu plus la semaine prochaine. Et on va recevoir aussi Patrick Gervais de la compagnie électrique Lion, qui doit être très heureuse des annonces qu'on a faites du côté du plan vert du gouvernement, parce que bon, évidemment, on est là-dedans jusqu'aux yeux. Et j'ai bien hâte, parce que je pense qu'on va y jaser un petit peu de l'opinion qu'ils ont, eux, le groupe Lion, parce que c'est Lion, mais Lion, bon, en tout cas, sont dans les deux langues, du plan vert, puis ce qu'ils en pensent. Et notre essai routier, on a partagé une voiture la semaine passée, on l'avait déjà annoncé, on va en parler, la Mazda 3. Et
Turbo. C'est
pas un petit détail. Et j'ai fait l'essai aussi d'un Cadillac L'Escalade aussi que j'ai eu en essai la semaine dernière.
En fait, on pourrait
dernière.
Dire à la blague qu'on a rangé la Mazda 3 dans le coffre de l'Escalade.
On pourrait presque.
C'est quand même un gros véhicule.
C'est pas petit un peu, ouais. C'est énorme. Mais on va en glisser un mot. Alors, allons-y tout de suite avec nos actualités. Qu'est-ce que t'as de ton côté, Alain, cette semaine?
Ben, écoute, un peu plus tôt cette semaine, c'est-à-dire mardi soir, je regardais il y a eu une conférence de presse d'Infiniti qui, pour le résumer bêtement, tente de sauver sa peau avec un nouveau véhicule qui est le QX55. Ça va mal chez Infiniti, en fait. La marque de luxe, du groupe Nissan peine à vendre des véhicules et accumule les pertes. Les marques de luxe des grands constructeurs, tu sais, Acura, Infiniti, Lexus, au niveau japonais, ils ont beaucoup de misère des fois à trouver leur niche puis à la garder puis à durer longtemps.
Parce qu'au Canada et au Québec en particulier, la dominante s'appelle Audi, Mercedes, BMW.
Les Allemands, ils sont
très forts. Vous vous présentez dans ce marché-là, là, accrochez votre tuc avec de la broche parce que vous allez vous faire brasser tout le long. Ça prend une sérieuse dose de courage pour se pointer là, effectivement.
Absolument. Puis dans le cas d'Infiniti, il faut dire que de toutes les marques de véhicules de luxe, c'est celle dont la gamme est la plus âgée en termes de renouvellement des modèles. Ça aide pas parce que les renouvellements vont vite dans ce créneau-là. Et
très
on
vite.
Le sait, avec les Allemands, ils sortent des véhicules dans des niches, des sous-niches. Écoute, ils ont comme toute l'image. Tout ce qui a quatre roues a été imaginé par les Allemands. Ça n'a aucun bon sens. Dans le cas du QX55, c'est une variante du QX50 qui était leur petit VUS, qui était. Écoute, c'est un beau modèle qui a été introduit il y a quelques années, puis qui avait la particularité d'avoir une mécanique assez originale. C'était un fameux 4 cylindres turbo avec la compression variable, exactement, qui permettait d'avoir au besoin là un peu plus de puissance ou un peu moins de consommation d'essence finalement. Et on vient un peu avec cette formule-là, et on veut aussi aller rechercher ce qui a un peu aidé Infiniti à connaître du succès en Amérique du Nord il y a nombreuses années, ce qui était le design du FX. Le VUS FX, qui était à l'époque le guépard bionique, qui disait le Bionic Cheetah, c'est son surnom, je me rappelle, ça m'a marqué à l'époque.
J'avais oublié ça.
C'est quelque chose. Donc, le QX55 est une version coupée du QX50 qui va être mise en marché au printemps prochain au Canada et aux États-Unis. Bon, évidemment, on l'a dit, il y a le 4 cylindres turbo du QX50, fait 268 chevaux pardon et 280 livres-pieds de couple, ce qui, pour ce genre de créneau-là, en tout cas, m'apparaît assez suffisant. À l'intérieur, les intéressés vont avoir droit à un système d'infos divertissement de 8 pouces avec la fameuse version sans fil. Ça, c'est intéressant parce que ça s'en vient de plus en plus répandu.
En fait, sans fil de Apple.
D'Apple CarPlay, exactement.
Pas encore Android.
Ben,
c'est ce que j'ai compris en lisant le communiqué.
T'as raison, mais j'imagine, mon impression là-dessus, c'est que les gens qui ont un iPhone sont plus intéressés d'avoir CarPlay que les gens qui ont un Android veulent avoir Android Auto dans leur voiture.
Peut-être. Étant un utilisateur d'iPhone, oui. Mais toi, t'es ambidex.
Moi, je suis agnostique. Je suis comme,
c'est ça.
Vas-y là,
t'as pas de
croyance. Peu importe. Écoute, ça pourrait être Linux, ça pourrait être n'importe quoi, je m'en fous. Mais effectivement, l'interface téléphonique à l'écran est un gros plus, et c'est pour ça que ça devient de plus en plus dans les premiers paragraphes des communiqués de presse des fabricants. On a CarPlay parce que c'est un truc que les gens recherchent. Bref, QX55 va aller jouer dans l'étal du BMW X4. Mercedes-Benz GLC, donc c'est un peu, on va voir, le prix va être assez déterminant dans ce créneau-là pour voir comment Infiniti va s'en tirer. mais c'est le premier de 5 nouveaux modèles, entièrement nouveau, premier par Infiniti au fil des 3 prochaines années. Fait que ça va bouger.
Exactement,
beaucoup.
Exactement. Là, ce qu'on va amener du côté d'Infiniti, du côté de Nissan, c'est le fameux EcoPower qu'on a du côté japonais déjà depuis 2 ou 3 ans. Qui est un hybride, appelons-le un hybride, un peu d'une nouvelle forme, qui est un hybride branchable, mais qui donne une autonomie variable. Mm-hmm. On aura des experts.
C'est une formule modulaire,
expliquer.
Ouais.
C'est une formule modulaire parce qu'on va, avec une même plateforme d'auto, on va pouvoir faire un modèle soit essence, soit EcoPower, soit 100% électrique, sans avoir à modifier la plateforme. C'est que sous le véhicule, on va mettre soit plus ou moins de place pour des batteries ou plus ou moins de place pour des moteurs. Et on c'est la technologie qui s'en vient là, du côté de chez Nissan.
Il y a eu beaucoup de succès. Ça. Nissan a eu du succès avec ça. Il a eu du succès avec sa promesse de véhicule plus abordable et plus économique en carburant. Ça marche moins dans les créneaux de luxe. Il faut voir comment Infiniti
ça marche moins. Et même si le QX55 est intéressant, le modèle, on l'a vu. Vous pouvez aller d'ailleurs sur benoîtcharette.com. Vous voulez le voir, j'ai fait une petite nouvelle le matin.
Voilà.
Alors, puis ça va être sur annuelauto.ca, pas plus tard que demain. Le site web est fini, mesdames, messieurs, on achève. On a travaillé là-dessus longtemps, mais ça va être en ligne aujourd'hui ou demain au plus tard. Et on a parlé de ce modèle-là. Là où Infiniti est peut-être un peu à la traîne face aux compétiteurs, c'est qu'on n'a pas une grande variété. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce modèle-là, mm-hmm. point, avec quelques variantes au niveau de l'équipement. Mais on offre un M-Performance du côté avec le...
Oui, voilà, c'est ça.
Le série 4,
les Allemands,
c'est ça. Il y a 3-4 moteurs, 5-6 finitions. Bon, évidemment, la gamme de prix est à l'avenant, mais on a une variété qu'on n'a pas encore et qui coûterait très cher et que, honnêtement, Infiniti n'a pas les moyens d'avoir, là. Soyons réalistes.
Non, mais s'ils ont le bon modèle, ils n'auraient pas besoin de le faire.
Voilà. Alors, on va leur souhaiter du bonheur. La chose qu'on peut dire, c'est que le modèle, du moins de l'arrière, je le trouve très réussi. L'avant,
ils ont voulu aller combiner au goût du jour avec ce qu'ils ont fait avant. C'est sûr que c'est pas toujours réussi.
À vouloir plaire à chacun, tout en chacun, à un moment donné.
Mais ils disent que c'est inspiré de la philosophie de design japonaise.
Oui, en tout cas.
Ce que tout le monde dit tout le temps.
Je suis pas japonais, alors je pourrais pas vous dire.
Ça, c'est vrai.
Autre nouvelle, Civic, qui nous a présenté un prototype de sa prochaine génération. Honda Civic. Alors, la 11e génération de Honda Civic, d'ailleurs, qui est la voiture la plus vendue au Canada depuis 22 ans. Alors, on
en
vend
en dehors
Civic,
des camionnettes,
là.
On parle.
J'ai bien dit la voiture la plus vendue. J'ai pas dit le véhicule le plus vendu,
d'accord.
Effectivement. Alors donc, c'est un nouveau modèle, la Civic. On n'a pas parlé de moteur. On présume que l'évolution qui se fait à petits pas jusqu'au dé de chez Honda va rester avec les moteurs qu'on a déjà, qui, au demeurant, vont très bien.
Là, la génération actuelle est vraiment très bien.
Absolument. Il n'y aura pas de coupé. Ça, on l'avait déjà annoncé dans un communiqué précédent. On parle d'un modèle 2022 qui va arriver quelque part...
Le printemps prochain.
Premier trimestre de 2021 comme modèle 2022.
On n'a pas les mêmes calendriers que les fabricants d'auto. Nous, c'est le 1er janvier au 31 décembre, c'est pas mal 2021 l'année prochaine.
C'est ça, exactement. Mm-hmm. Et on parle d'un intérieur qui va avoir probablement en option, mais un intérieur numérique qu'on va là évoluer. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que les lignes sont beaucoup moins tarabiscotées.
Ça, c'est bien.
Parce que bon, on s'entend que la Civic actuelle là,
c'est lourd.
Sortir de l'ordinaire. Là, on revient à des normes, je dirais, un peu plus épurées, un peu plus simplistes, qui va probablement rejoindre un plus large créneau de gens. Mais c'est toujours un bon vendeur, la Civic. Donc, peu importe ce qu'on présente, même dans sa forme actuelle, qui est à pas aimer de tous au départ, on a quand même réussi à garder le premier rang des ventes au Canada malgré tout ça. Donc, c'est voir l'attrait et l'intérêt qu'il y a pour ce modèle-là. Mais là, la lutte va se faire assez chaude parce que là, on a la nouvelle Elantra dont je vais vous parler tantôt, que j'ai essayé cette semaine. On a une Corolla qui est pas très vieille. Là, la Corolla est toute neuve.
Mm-hmm.
Et Civic a décidé de dire, parce que ça, c'est je viens de vous faire le 3-2-1. Là. Elantra 3, Toyota Corolla 2, Civic 1.
Ouais.
Donc, c'est ces véhicules-là là, qui se partagent la part du lion dans le créneau des petites voitures.
C'est chaud.
C'est très chaud. Je pense qu'on va tout de suite aller à une pause parce qu'on a beaucoup d'invités, on a beaucoup de modèles à parler. Fait qu'on n'ira pas trop loin des actualités. On va prendre 2 petites minutes. Puis au retour de la pause, on va être avec Jean-François Taylor de chez Honda.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
On arrive dans la portion interview de l'émission, mais avant de passer à notre premier invité, je vous rappelle que Ça tient la route peut être écouté en ligne sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple, Google, mais aussi sur le site du 98.5fm.ca dans la section balado. Et si vous avez des questions, on les prend. On n'a pas toujours notre...
On les prend. Est-ce qu'on répond, là? Ça va venir un jour.
On va tenter. On a juste une heure d'émission. Ça prendrait 2 heures pour répondre à toutes vos questions, mais envoyez-les-nous. On va les prendre, on va les lire. C'est balado avec un S à 98.5fm.ca. Alors, notre premier invité aujourd'hui est responsable des relations publiques pour la compagnie Hyundai Canada. Il s'agit de Jean-François Taylor. Bonjour, Jean-François.
Salut, Benoît, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, pour les besoins de la cause, on va se tutoyer, on se fréquente. On a même passé quelques jours la semaine dernière ensemble. Ouais, Jean-François, c'était au Québec le dévoilement du plan vert au début de la semaine. Le gouvernement du Québec vise à éliminer les voitures à essence neuves du marché d'ici 2035. Comment est-ce que cette nouvelle-là est accueillie du côté d'Hyundai?
Évidemment, on est assez positif chez nous parce que on a toujours été des grands supporters des véhicules électriques. En fait, il y a seulement 2-3 mois, je pense, on a dévoilé nos plans d'avoir une marque sous la marque Hyundai, et on va appeler ça Ioniq.
Ah oui,
et
c'est vrai.
En ce moment, comme vous savez, Ioniq, c'est un modèle, mais dans les prochains ou l'année prochaine, ça va devenir une marque dédiée 100% électrique sous la marque Hyundai.
OK, donc Ioniq va avoir plusieurs modèles, et si j'ai bien compris le communiqué qu'on a reçu, ça va être uniquement des modèles verts. Là. Ça va être soit des hybrides branchables ou des totalement électriques. Là.
Non, pour la marque Ioniq, c'est 100% électrique seulement.
Électrique seulement
voilà. Juste 100% électrique.
Absolument.
OK.
Est-ce que c'est systématiquement basé sur le modèle actuel ou il va y avoir des variantes un peu plus costaudes, un peu plus autonomes, des choses comme ça?
Non, ça va être des nouveaux modèles à 100%. Ouais, okay. C'est une nouvelle plateforme à 800 volts. C'est tout nouveau et ça va être des tout nouveaux modèles.
Okay,
alors, le modèle présent Ioniq, ça va changer de nom ou ça va retirer de la ligne.
Ah oui, OK.
Okay,
on ne le sait pas encore.
OK, donc, vous avez, je pense, 5 modèles que vous avez annoncés, c'est bien ça?
En ce moment, il y en a 3, mais ça va développer à 4 et à 5 assez bientôt. Mais les 3 qu'on a annoncés jusqu'à 2024, c'est l'Ioniq 5, l'Ioniq 6 et l'Ioniq 7.
OK, puis si tu expliquais, c'est quoi le 5, le 6 et le 7 pour que les gens nous suivent un peu?
Alors, le 5, c'est le premier modèle qui va sortir l'année prochaine. Et ça va être un VUS compact et ça va être basé sur le Concept 45. Et le Concept 45, on a dévoilé au Salon de l'Auto de Montréal.
Absolument, je m'en rappelle. Oh, oui,
c'est lui qui avait un petit air de pony, c'est celui-là? Il y en avait un autre?
Oui, c'est un
air de pony.
Ouais.
Ah oui,
c'est
ça.
Alors, ça c'est l'Ioniq 5, ça va être un VUS compact, ça sera l'année prochaine. Et là, l'Ioniq 6, ça va être une berline assez élégante, et ça va sortir en 2022. Et là, ça va être suivi en 2024 par l'Ioniq 7, et ça va être vraiment notre premier grand VUS comme familial à 100% électrique. Alors ça, c'est super excitant.
Et là, est-ce qu'on connaît déjà un peu les autonomies de ces modèles-là? On parle de quoi, là? Parce qu'on est autour, on n'est pas loin de 400, là, avec l'Ioniq électrique en ce moment, là?
Le Kona électrique, il est à 415.
Ouais.
Et le monde, s'il conduit prudemment, il voit même du 430, 445.
OK.
Alors, on n'a pas encore des détails pour l'Ioniq, mais on s'attend à plus que 450, mais vraiment, il n'y a rien de confirmé en ce moment.
OK, on est à travailler là-dessus. Et pendant ce temps-là, parce que on ne s'arrête pas là chez Hyundai, vous avez une quantité assez impressionnante de nouveaux modèles qui s'en viennent en 2021. Là, parle-nous un peu de ça. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler rapidement de l'Elantra et de la Sonata N-Line que j'ai eu l'occasion d'essayer la semaine dernière. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus que ça qui s'en vient chez Hyundai. Là. Parle-nous un petit peu de ce qu'il y a au programme pour l'année 2021-22.
Oui. Alors, pour moi, l'année 2018 était assez occupée, mais l'année 2021, les prochains 14 mois, ça va vraiment être assez impressionnant.
Beaucoup de VUS, non? Beaucoup de nouveaux camions, là.
Ben oui, c'est ça. Alors, après l'Elantra et la Sonata N-Line, l'Elantra, elle reçoit une version hybride et N-Line aussi. Alors ça, c'est la première version hybride pour l'Elantra. Alors ça, ça sort janvier. Et après ça, effectivement, on commence la folie des VUS. Alors, le Santa Fe, il arrive avec une version hybride et hybride rechargeable.
Ça m'a surpris parce que moi, moi très innocemment, pour prendre l'avance dans mon annuel de l'auto 2021, j'ai dit, ah, Hyundai, c'est nouveau de 2018.
Pff, ça bougera pas.
Ça bougera pas beaucoup. Fait que je commence à écrire mon texte, je fais ça. Tout d'un coup, on reçoit un communiqué. Tout nouveau modèle. J'ai dit, ah non, c'est pas vrai. Fait que là, j'ai sacré aux poubelles mon autre texte, puis j'ai recommencé. Mais ça faisait seulement 3 ans, le Santa Fe. C'était pas très vieux.
Oui. Alors, Hyundai en Corée, ils ont décidé qu'ils vont commencer à rafraîchir ou même introduire des tout nouveaux modèles beaucoup plus rapidement que dans le passé. Alors, au lieu d'être chaque 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, ils vont essayer de le faire à chaque 4-5 ans.
Ah, c'est quelque chose. Les coûts aussi qui sont reliés à ça, là, ça coûte cher, un nouveau modèle. Là.
Mm-hmm. Et surtout, quand tu penses, le Santa Fe, c'est seulement un rafraîchissement, comme on l'appelle ça dans l'industrie.
Oui, ben, en fait, c'est ça. J'avais lu ça, mais quand tu lis le profil puis le pedigree, tu dis, ben là, c'est super rafraîchissement. Ils ont à peu près rien laissé de l'ancien modèle dessus, là.
Ben, c'est ça. C'est une nouvelle plateforme et il y a 2-3 nouveaux moteurs.
C'est ça.
Il y a le moteur hybride turbo, il y a le moteur hybride rechargeable turbo et il y a le nouveau 2.5 turbo qui est en haut de la gamme.
Ah oui, fait que c'est quelque chose, là. Donc, il y a ça, il y a le Tucson, puis il y a le Santa Cruz. Je veux que tu me parles du Santa Cruz qui va être un nouveau modèle là, qu'on va amener, là, une camionnette mm-hmm. qu'on avait présentée il y a déjà quelques années, mais qu'on va commercialiser finalement, là.
Oui, c'est ça. Alors, ça va, on veut montrer notre côté un peu plus funky. Alors, ça va être, effectivement, ça va être notre premier VUS avec une caisse à l'arrière, comme une camionnette. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment une camionnette un peu plus flexible et accessible pour le monde en ville. Alors, on essaie vraiment de faire ça pour la vie de tous les jours, plus que pour le travail. Tu sais, le travail, il y a des grosses camionnettes qui s'occupent de ça.
Pas commencer. Vous voulez pas aller jouer dans le cours d'un F-150, là, on s'entend, là.
Pas en ce moment.
Ni même un Tacoma, là.
Hyundai peut faire n'importe quoi qu'ils veulent. C'est incroyable, comme vous savez, le...
Oh oui, c'est très gros, là. Faut aller...
Mais en ce moment, effectivement, on veut pas aller jouer avec les gros camions.
OK. Fait est-ce qu'on pourrait comparer ça, par exemple, à un Ridgeline chez Honda?
Un peu plus,
OK, OK. On va être dans ce genre-là, mais j'invite les gens à aller voir le Santa Cruz. Il est beau. Le modèle est très joli. Puis ça va, écoute, ça va aller chercher... si vous êtes un ancien amateur d'El Camino ou de
El Ranchero. Le Subaru avait le Baja pendant un bout de temps qui a bien, absolument. Plus ou moins bien marché, mais c'est un créneau.
C'est un créneau. Fait qu'on s'en va là. Puis si on regarde un peu plus loin, Jean-François...
C'est un nouveau groupe.
Exact. Puis si on regarde un peu plus loin, là, au-delà d'Ioniq puis tout ça, qu'est-ce qu'on prépare d'autre chez Hyundai?
Ben, comme tu as dit, ben un peu avant le Santa Cruz, c'est le Tucson. Le Tucson, évidemment, c'est très, très, très important pour nous au Canada. Vraiment, ce segment est rapidement devenu le plus important au Canada. Alors, c'est très compétitif. Il y a beaucoup, beaucoup de modèles dans ce segment-là. Alors, on va être assez agressif. Il va avoir une version normale, évidemment, hybride et hybride rechargeable. Alors, comme la même chose que le Santa Fe.
Okay.
Et il va aussi avoir une version N-Line. Alors, ça va être le véhicule le plus important pour nous l'année prochaine.
C'est la gamme N-Line, c'est des véhicules plus performants, c'est ça?
Exact.
C'est des retouches sportives. Ouais.
Puis, il faut pas oublier le Elantra. Je sais pas si tu l'as dit tantôt, mais il va y avoir un Elantra N. Pas un N-Line, là, mais un N-Co comme le Veloster. Là.
C'est ça, à la fin de 2021. Alors, comme tout le monde le sait, la Veloster N, ça a vraiment ajouté quelque chose de spécial à la marque Hyundai. C'est vraiment devenu quelque chose de, très performant, très bien reconnu dans le segment.
C'est vrai.
Alors, on va donner ce traitement-là à l'Elantra.
OK.
Alors, ça va être vraiment, vraiment spécial.
Donc, il manquera pas d'action chez Hyundai là, dans les, mon Dieu, dans les 18 prochains mois, là, au minimum. Vous allez pratiquement renouveler toute la gamme. Ben écoute, un grand merci Jean-François d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous deux.
Alors, c'était Jean-François Taylor, qui est le responsable des relations publiques chez Hyundai Canada. On prend une petite pause et on revient rapidement avec notre deuxième invité de la journée, M. Gervais de la compagnie Lion, véhicule électrique.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Notre prochain invité est au responsable du marketing, commercialisation,
exactement,
vice-président de la compagnie Lion Électrique, hein, parce que c'est une compagnie de Saint-Jérôme, on s'habituait à le dire en français.
Qui est présente dans les salons, dans les expositions automobiles.
Oui, en fait, les gens qui ont été au salon de l'auto de Montréal ont probablement vu des réalisations de Lion Électrique là, dans les dernières années. C'est M. Patrick Gervais. Merci d'être avec nous, M. Gervais.
Hey, merci à vous, ça me fait plaisir.
Alors d'abord, présentez-nous Lion Électrique. Qui est Lion Électrique? Qu'est-ce qu'on fabrique comme véhicule? On est en commerce depuis combien d'années pour les auditeurs, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent?
Ah oui, ben écoutez, merci beaucoup. Le Lion Électrique, c'est un fleuron québécois. Dans le fond, on a été fondé en 2008. Et puis, on est un manufacturier de véhicules lourds. En 2011, on a commencé à développer des véhicules lourds 100% électriques. Et à partir de 2016, là, on a vraiment là, dédié là, l'entreprise à concevoir des véhicules lourds 100% électriques. On a débuté avec des autobus scolaires. Fait qu'on est un petit peu plus connu pour nos autobus scolaires. Hein. On les voit un petit peu partout là, à travers la province là, avec les pare-chocs bleus. Par la suite, on est allé vers développer un minibus qui est vraiment fait pour, bon, dans le fond, le transport de type collectif, là, mais qui est un 26 pieds de long, avec un plancher bas, là, avec une rampe qui se déploie rapidement pour pouvoir aussi faire du transport adapté. Fait que c'est un véhicule vraiment innovant là, dans cette industrie-là. Ensuite, ben un autobus scolaire est monté sur un châssis de classe 7 au niveau du camion. Alors, ça allait de soi là, qu'on développe un camion lourd. Fait qu'on a développé un camion lourd 100% électrique de classe 8. Et on a aussi un camion de classe 6. Évidemment, on va développer des camions de classe 5 à classe 8. Et on a aussi mis en place des équipements avec 100% électrique qui vont surtout des châssis de classe 8, comme des camions de collecte, des camions nacelles, des camions réfrigérés. On peut faire un petit peu de tout. Puis même là, à la fin 2021, là, on devrait lancer la première ambulance 100% électrique.
Ah oui.
Sur le marché en Amérique du Nord.
Les camions de classe 5 à 8, évidemment, c'est des camions commerciaux. On connaissait Lion pour ses autobus électriques, vous l'avez dit au début du segment, mais les camions ont certaines popularités aussi. Vous avez déjà livré quelques exemplaires, je pense, au Canadien National, puis à Amazon aussi, qui était intéressé d'en avoir.
Ben, on va livrer dans les prochaines semaines nos premiers véhicules de classe 6 à Amazon.
Ça, c'est cool.
Vraiment, là, on parle de journées, là, plus que de semaines, mais dans les prochaines semaines. Et oui, effectivement, aussi, là, le Canadien National a passé une commande pour 50 camions qu'on va livrer là probablement en mi-2021 parce que ce sont des camions de type tracteur qui sont des camions qui sont dans lesquels on va mettre une remorque et on peut mettre beaucoup là, de marchandises.
Chargement, oui, c'est ça que de marchandises.
Puis, la question qui m'intéresse, au niveau autonomie, qu'est-ce qu'on développe au niveau autonomie, que ce soit avec les autobus ou les camions de classe 5 à 8, qu'est-ce qu'on a en ce moment et est-ce qu'on vise, on a des objectifs pour les 5 prochaines années?
Ben, c'est exactement là que je m'en allais. Nous, chez Lion, on a décidé de mettre des véhicules qui étaient commercialisables dès maintenant. On voulait pas attendre là, d'être capable de faire 1000 km. Fait que nos véhicules, les camions font 400 km et moins, et les autobus scolaires, en ce moment, font 250 km et moins.
Okay.
La route moyenne d'un autobus scolaire, là, tout dépendamment, c'est à peu près 100-125 km, puis c'est 43% des véhicules lourds urbains, des véhicules lourds, des camions, font 400 km et moins par jour. sur une seule recharge.
OK, donc ça convient aux besoins qu'on a avec ces véhicules-là en général.
Tout à fait. Évidemment, en date d'aujourd'hui, on ne peut pas faire du longue distance. On ne peut pas faire, mettons, du Québec-Toronto. C'est pas quelque chose qui est
possible. Ouais. On parle de l'interbanlieue, là, grosso modo.
Ben oui, c'est du temps, effectivement, du transport urbain. Ça serait possible. C'est juste qu'on n'aurait plus assez de charges pour pouvoir mettre de la marchandise qui est la vocation.
Ouais, ça serait un gros problème, oui.
Ah, c'est ça. C'est pour attendre à Toronto, mais avec un camion vide. Fait que ça donne pas grand-chose.
Exactement. Mais en ce moment, on est capable de dire que l'autonomie, elle augmente d'une moyenne de 50 km par année. Fait que dans 5 ans, on devrait être en mesure de faire 650 km. C'est très rapide.
Il y a eu très rapide. Parler de dans 5 ans, c'est le fun parce que cette semaine, on a entendu parler du plan pour une économie verte en 2030 du gouvernement du Québec. Puis on dirait que c'est un plus...
Ouais, c'est vrai, 2030, oui.
Ben, il y a le premier plan jusqu'en 2026, donc c'est les 5 prochaines années.
Exact.
On dirait que c'est un peu votre modèle d'affaires officialisé, ça, non? Parce qu'il me semble que ça va exactement dans votre direction, ce qui a été annoncé. Là.
Ben, c'est sûr que ce qui est annoncé, nous, on peut que lever notre chapeau au gouvernement de premièrement, de deux volets, de mettre en place, d'avoir la volonté de mettre des législations et en même temps de mettre des incitatifs pour aller vers l'électrique. Et c'est la recette magique, dans le fond, là, c'est pour pouvoir accélérer l'électrification des transports lourds.
Une des mesures, je pense, c'est d'avoir des autobus scolaires électriques. Je pense que 65% des autobus scolaires vont être électriques en 2030. Est-ce que c'est exact?
Exactement. C'est sûr que nous, on aimerait mieux 100%, mais c'est déjà un grand pas.
Il faut commencer quelque part. Oui.
Mais non, mais c'est vraiment une belle initiative de la part du gouvernement.
Pour une compagnie comme Lion, qu'est-ce que ça veut dire le plan vert qu'on a dévoilé cette semaine?
Bien, le plan vert, ça veut dire que l'électrification des transports, c'est maintenant. Et qu'on doit agir maintenant. Et que le gouvernement donne les moyens pour agir maintenant. Puis la technologie, elle est disponible. Et une des problématiques du véhicule électrique, que ce soit un passager ou dans le véhicule lourd, c'est le coût d'acquisition. Hein. Par contre, coût d'opération, il y a vraiment une grande économie. Puis les gens n'ont pas tendance, surtout dans le transport lourd, un véhicule, on les garde plus longtemps que le transport personnel.
Ouais.
Fait que le coût total de la possession va toujours être moins dispendieux en électrique, même sans subvention, que le thermique. Par contre, il y a un réflexe, il y a un changement. Hein. C'est quand on voit notre paiement là à tous les mois là du coût d'acquisition, là, ben on regarde pas nécessairement que ça ne coûte rien.
Regardez, pour donner un exemple aux gens, là, si on compare le prix d'un autobus scolaire conventionnel avec un moteur, soit diesel ou un moteur à essence, versus le prix d'un autobus Lion, là, on parle de quoi comme ordre de grandeur?
C'est pratiquement le double en ce moment.
OK.
C'est quand même...
Est-ce que ça s'amortit sur une période de temps définie? Comment on arrive à rentrer dans son argent avec ça?
Oui, normalement, entre 5 et 7 ans, dans le scolaire, parce qu'on fait pas beaucoup de kilométrage. Hein, le kilométrage du scolaire, c'est à peu près 25 000 km par année en moyenne. Là, des fois, c'est un peu plus, un peu moins.
Oui, parce que les trajets sont pas très, très longs. Là.
Non, exactement. Ils font une moyenne, justement, comme je vous disais, 100-150 km par jour. Fait que c'est pas tant que ça, puis ils fonctionnent que 180 jours par année. Fait que comparativement à un camion où en dedans de 3, maximum 5 ans, on va avoir un retour sur investissement, puis les équipements, un camion de collecte, par exemple, là, c'est on parle d'un an et demi à 2 ans. Parce que les dépenses sont tellement grandes en maintenance et en énergie que le véhicule électrique là, est super rentable là, vraiment très, très rapidement.
C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a un incitatif à l'achat quand même? Est-ce que le gouvernement aide les entreprises ou les gestionnaires de parcs à électrifier leur parc en ce moment?
Ben, c'est le plan pour l'économie verte. C'est ce qu'ils viennent de mettre en place. On avait déjà des subventions d'aide à l'acquisition. Il y avait une subvention pour le véhicule scolaire de 125 000 à l'acquisition. Et il y avait un montant de 75 000 pour les camions lourds. Avec des maximums de budget là, annuellement. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un budget d'aide à l'acquisition sur 5 ans, dans le cadre du scolaire de 350 millions et dans le cadre du camion lourd de 225 millions. On ne sait pas encore comment on va prendre forme l'aide à l'acquisition, mais on sait que les montants d'argent vont être là pour accélérer l'électrification. Puis là, on parle là, d'aide à l'acquisition, mais aussi l'implantation des infrastructures, parce que ça, c'est aussi très important dans la transition vers l'électrification.
Pour pouvoir se charger.
Une question en terminant, M. Gervais. Si on se projette dans quelques années, à quel endroit est-ce que Lyon Électrique aimerait se positionner? Là, évidemment, on est dans le transport lourd. Est-ce qu'on veut rester là où on aimerait étendre ses tentacules ailleurs dans le marché des véhicules électriques?
Ben, en ce moment, Lyon Électrique est le leader en électrification des transports scolaires. Fait qu'on veut rester là. On veut devenir le leader aussi dans le camion lourd à travers l'Amérique du Nord. Pour nous, on a une technologie qui est éprouvée. On veut vraiment devenir un leader. Et en ce moment, ben, la prochaine étape est aussi de la réduction des coûts et l'augmentation de l'autonomie. Puis ça passe par avoir notre propre usine de batterie. Alors, c'est vraiment un vœu qu'on l'on chérit là, d'avoir une usine de batterie, d'assemblage de batterie, là, où on peut assembler le module et le pack batterie. Et ça, là, ça va vraiment réduire les coûts d'à peu près 50%. Et de faire ça ici même, à Saint-Jérôme, au Québec, chez nous, ça va être un grand pas pour l'avenir, puis ça va nous permettre aussi d'électrifier bon, évidemment, nos véhicules, mais nos véhicules qui vont être partout à travers l'Amérique du Nord. Là. Ça, c'est la prochaine étape.
Je me demandais justement, parlant de l'usine de batterie, il n'était pas certain si ça allait être au Canada, ou aux États-Unis ou ailleurs. Là, est-ce que vous avez déterminé vraiment que ça va être à Saint-Jérôme, ou c'est encore être décidé?
Ben, il n'y a pas encore de confirmation, mais on souhaite de tout cœur que le projet se fasse ici au Canada. On a confiance que le projet va se faire au Canada, au Québec, on a confiance. Mais on est encore là, à finaliser le plan d'affaires. Et puis, mais c'est positif.
On va suivre ça. Des autobus jaunes, verts,
oui.
Bleus. Ça oui, va bleu, être coloré, là, québécois, électrique, jaune. En tout cas, ça va être intéressant de suivre ça.
Ben, un grand merci, M. Gervais, de votre temps. Et on va également, comme dit Alain, suivre le dossier de près chez Lyon Électrique. Merci.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir.
Alors voilà, c'était M. Patrick Gervais, vice-président chez Lyon Électrique à Saint-Jérôme, qui nous parlait évidemment d'autobus scolaires électriques et de véhicules poids lourds électriques. Leader québécois, mais on veut, je pense, être un leader canadien aussi et possiblement nord-américain. C'est un gros marché. On le sait, les autobus scolaires, c'est gigantesque. Il y en a partout.
Ah oui, ça commence alors, à se mettre en place. L'industrie
ça commence québécoise, tranquillement à se mettre en place. Évidemment, M. Gervais l'a bien souligné, il y a le coût d'acquisition qui est encore un frein pour beaucoup de gens. Mais si on réalise après 6-7 ans que finalement ça coûte pas plus cher, ça va probablement encourager un certain nombre de gens. Il nous reste, Alain, à peu près 8 minutes avant la fin de l'émission. On a, toi et moi, fait l'essai du même véhicule, en fait, la semaine dernière. Mazda, qui nous a déjà présenté la Mazda 3, ajoute un modèle à sa gamme qui est le Mazda 3 Turbo. En fait, ce qu'on prend, c'est le moteur 2 litres. 2,5 litres turbo qu'on a déjà dans la Mazda 6, le CX-9, le CX-5, et on l'a glissé sous le capot de la Mazda 3.
Exact. Puis on peut imaginer que une Mazda 3 turbo, c'est comme une Mazda Speed 3, qui était une voiture turbo de notre époque, mais ce n'est pas ça du tout. Donc les gens qui cherchent une alternative à, par exemple, une Volkswagen GTI ou une Subaru WRX vont être déçus.
Vous n'êtes pas au bon endroit.
C'est pas ça du tout.
Non.
Mazda a commencé il y a un petit bout de temps à présenter la Mazda 3, ou en tout cas les innovations sur le nouveau véhicule, pour dire ben, on est plus une marque d'entrée de gamme dans le luxe maintenant, japonaise. Et c'est un peu ça que Mazda 3 la Mazda 3 Turbo veut faire.
C'est beaucoup l'impression qu'on veut donner aux gens. Tous les modèles signatures qui sont apparus depuis quelques années.
Exactement.
On l'a vu dans le CX-9, on l'a vu dans le 6. Là, cette année, il y a les modèles centième anniversaire.
C'est vrai.
Est-ce que Mazda célèbre son centenaire? Pas son centenaire de fabrication automobile. Parce qu'on a commencé, je pense, en 1944, les autos ou une chose que c'est. Mais c'était pas.
Ils faisaient pas des vélos ou quelque chose comme ça, des trucs de.
Ils ont fait des tricycles. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais ça fait pas 100 ans qu'on fait des autos, mais ça fait 100 ans que Mazda existe à Hiroshima. Et on célèbre le centenaire. Et les éditions centième anniversaire sont des éditions plus haut de gamme.
Exact. Ben, comme la Mazda 3 Turbo, en fin de compte.
Voilà,
la version la plus cossue de la petite berline. Là.
Voilà. Dans la présentation un peu assommante qu'on a eue, je dois aller.
Tu sais, on parle de Zoom, puis de Teams, puis de... Écoute, ça, c'en était une. Là,
était un peu pénible. Mais on expliquait dans cette présentation-là qu'on met la Mazda 3 Turbo vis-à-vis des modèles comme une BMW 328, comme une Audi A3.
Ouais.
Donc, si vous voulez savoir qui on vise, là, c'est ce marché-là qu'on vise. Et très honnêtement, on est vraiment là.
On n'est pas loin. Moi, je suis pas sûr, mais on n'est pas loin.
On n'est pas loin, mais on est 32 900 $.
Oui, ben là, il y a ça. Ça, c'est ça, ça fait une grosse différence.
C'est le prix de base. Il y a des groupes performance. Il y a des groupes, bon, qu'on peut ajouter. Là, mettons que vous allez mettre un 35. Mais on met facilement un 43-44 pour un équivalent allemand.
Oui.
Si vous n'êtes pas accro au logo et que vous voulez pas absolument avoir quatre anneaux, deux fois ou un étoile dans votre cour, le Mazda 3 va faire la job.
Oui.
Et c'est là qu'on vise. Quand tu disais tantôt Mazda Speed 3, non.
C'est pas la même chose. On est plus des
modèles,
adolescents, là,
les modèles d'entrée de gamme des constructeurs allemands. Oui, c'est là qu'on s'en va. Là.
Gros avantage pour la Mazda 3 Turbo, c'est qu'il y a la berline, évidemment, quatre portes, et il y a la version hatchback que la A3 avait avant.
Exact.
Et qui n'existe plus. Donc, c'est pour un certain créneau d'acheteurs, ça peut être super intéressant, surtout que c'est une belle voiture en plus. C'est peut-être la plus belle version de la Mazda 3.
On a quatre roues motrices.
Ouais. Et évidemment, on a une belle puissance. 250 chevaux, 320 livres-pieds. Si on met du super,
il faut bien
détail important, sinon on perd en puissance. Je pense qu'on tombe à 227.
227 et 310 sur le régulier.
Et comme tu le dis, 4 roues motrices grâce à une boîte automatique. Et ça, pour moi, c'est peut-être le gros bémol dans la mécanique. C'est la boîte automatique à 6 rapports. Il me semble qu'une boîte manuelle là-dedans, ça aurait été pas mal.
Oui, et la boîte est paresseuse.
Exactement.
On n'a pas l'impression d'avoir 250 chevaux, pour être honnête. On le voit en reprise, là, quand finalement la transmission se décide à décoller. Mais je verrais très bien une boîte à 8 rapports moderne qui tirerait bien meilleur profit de la puissance qu'on a disponible. Là, on a l'impression d'avoir un coureur de 100 mètres avec des gougounes.
C'est une belle image, effectivement. Usain Bolt en pantoufles. Ben, tu sais, on parlait tantôt, c'est pas une GTI, ça veut pas aller dans le créneau de la GTI, mais la boîte DSG de Volkswagen, double embrayage, super nerveuse.
Voilà.
Imagine ça avec le moteur de la Mazda 3 Turbo. Là, t'as une méchante machine.
Oui. Alors, il y a des petits correctifs
à
faire.
Encore tout à fait là.
Mais au niveau de la qualité perçue, au niveau de l'environnement du véhicule, c'est bien insonorisé, les matériaux sont de qualité, on a du cuir, on a fait l'effort d'aller et on a une bonne liste d'équipements de série qu'on a souvent en option du côté des Allemands.
Exact, ça comprend beaucoup d'aide électronique à la conduite, changement de voie, des choses comme ça. Il y a des phares automatiques aussi qui sont étonnamment précis. Tu sais, les phares de route, qui s'ajustent, toujours correctement. Ça m'a surpris, c'est un détail, mais il y a quand même une certaine notion de soin, on a pris soin de bien intégrer la technologie. Il y a, comme tu dis, belle finition. Le système Mazda Connect, là, l'interface multimédia, est comme en version élégante dans ce véhicule-là. C'est une interface très épurée. Puis on en a parlé dans le cas du CX-30 la semaine dernière. C'est un des systèmes les plus fun, les mieux conçus en termes d'interface. Il n'y a pas trois façons différentes de monter le volume. Tu montes le volume, tu sais, là où il y a le bouton de volume ou sur le volant. Il n'y a pas de redondance. C'est vraiment bien ficelé. Ça fait vraiment un véhicule qui a été réfléchi. Puis je pense que la notion de luxe pour Mazda est là et dans cette simplicité-là qui fait que ça marche. C'est pas compliqué.
Exact. Alors, si vous considérez le luxe sans être l'esclave d'un logo, là, je pense que le Mazda 3 Turbo peut être une belle solution.
Ouais.
Moi, j'ai quelques minutes, 3 minutes à peine, pour parler du Cadillac Escalade 2021. Nouveau modèle, en fait, qu'on amène cette année, qui est basé beaucoup sur le Tahoe du côté de Chevrolet et le Yukon du côté de GMC. J'avais le bonheur de conduire la version ESV, la version allongée.
Oui, en plus.
5,7 mètres, 2700 kilos. On parlait de Lyon électrique et les autobus,
oui,
peinturés sur jaune et vous êtes en autobus. Non, c'est pas gros, c'est immense.
Ouais.
Écoute, c'est un 6 places, 7 si on tasse un peu dans troisième rangée. Et vous pouvez loger les bagages de tout le monde en arrière de la troisième rangée, là, ce qui commence à être rare dans des véhicules utilitaires.
Un véhicule qui existe parce qu'il est très demandé, évidemment aux États-Unis, mais ici aussi.
Oui. Il y a une demande. Bon, écoutez, c'est pas donné, là. 117 000 $ le modèle que j'avais, qui est le Platinum, là, le modèle crotté, là, avec tout dedans.
Il manque rien.
Ce qui est probablement le plus intéressant au niveau de la trouvaille, c'est le fameux écran OLED. Vous avez 38 pouces d'écran OLED devant vous. Bon, on triche un peu, c'est pas 38 pouces, c'est comme trois écrans. Il y a un 7,2 pouces qui est un espèce de petit écran de commande à gauche. Il y a un 14,2 pouces devant le conducteur, configurable. On peut en faire un... Quand je suis parti de l'auto la première fois, c'était un écran qui montrait l'avant du véhicule. Je dis ah, qu'est-ce que c'est ça? Là, là j'ai dit, attendez, là, je suis allé, j'ai
fini par trouver... dans un jeu vidéo, ça.
Oui, ben pas un peu. J'avais l'impression d'être carrément dans un jeu vidéo. Mais c'est configurable. Et il y a un 16,9 pouces qui est l'écran central à côté. Mais tout ça est intégré dans un seul module incurvé. Avec des images d'une clarté limpide.
Oui,
là,
les écrans OLED, c'est les meilleurs.
Les écrans OLED, là, on dira ce qu'on veut, c'est quelque chose. Et le système audio AKG. AKG est une compagnie professionnelle de tous les... En fait, pas tous, mais la majorité des studios d'enregistrement à travers le monde ont ces systèmes-là. Alors, c'est des systèmes très perfectionnés. Les moteurs, c'est du V8 6,2 litres, qui est connu, 420 chevaux, 460 livres-pieds de couple. En gros, ce que j'ai aimé, technologie, confort général, espace, c'est extraordinaire.
Ça doit être doux,
ça porte très doux. Ouais. Les roues de 22 pouces arrivent à bien absorber. Ce que j'ai moins aimé, le prix, la consommation qui
est toujours le problème.
16 litres au 100, puis j'ai pas fait d'effort. Là.
J'ai 16 litres?
Oh oui, puis j'ai roulé tranquille. Mais ça reste un véhicule très pertinent dans son marché. Alors, sur ces bons mots... On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alain, on va parler de Genesis avec nos invités dans notre série des compagnies. Et en essai, on va prendre le temps de parler de Sonata et d'Elantra de mon côté que j'ai pas eu le temps de toucher. Merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!
Ce balado C23 vous a été présenté par le 98.5.
C23.